Bonjour et bienvenue sur la radio Bac FM station 106.1. Je suis Julie Blé, élève en classe de terminale au lycée Raoul Follereau à Nevers, et je vais interviewer aujourd'hui Catherine Dehaye, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Au cours de cette émission, Madame Dehaye répondra donc à mes questions au sujet de sa vie professionnelle et personnelle à propos de l'égalité des droits. Bonjour Madame Dehaye.
Bonjour.
Pour commencer, nous allons aborder votre vie professionnelle en tant que déléguée aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste ce poste ?
Alors, ce poste s'exerce autour de trois axes. D'abord, faire en sorte que la petite sonnette d'égalité femmes-hommes sonne dans toutes les têtes et travailler sur l'égalité femmes-hommes dans le domaine économique, social, de la santé, en matière d'éducation. Et voilà, que tous les domaines de la vie puissent être couverts sur les travaux d'égalité femmes-hommes. Donc moi, je travaille sur le département de la Nièvre, c'est le territoire duquel je m'occupe. Et donc voilà, je dois travailler avec les acteurs de ces domaines-là pour pouvoir faire avancer l'égalité femmes-hommes. Le deuxième axe, c'est promouvoir l'égalité et la dignité en droit. Ce qui veut dire que j'accompagne et je coordonne tous les acteurs qui accompagnent les femmes victimes de violences et tous les dispositifs qui peuvent lutter contre les violences faites aux femmes. Le dernier point, c'est avoir une approche intégrée, c'est-à-dire que tous les services de l'État, les associations, tous les partenaires, toutes les structures aient vraiment cette compréhension totale de l'égalité femmes-hommes et que ça puisse être respecté dans toutes les décisions qui doivent être prises ou les choses à mettre en place.
Par ailleurs, comment et par quels moyens êtes-vous devenue déléguée aux droits des femmes ? Vous a-t-il fallu des études spécifiques ou encore une certaine expérience professionnelle ?
Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique, mais je suis devenue déléguée aux droits des femmes en étant fonctionnaire d'État, puisque c'est un poste de cadre de la fonction d'État. Mmh. Donc, étant titulaire du bon grade et du concours idoine, j'ai pu devenir déléguée aux droits des femmes. Auparavant, j'étais directrice de l'Office national des anciens combattants de la Nièvre. Mmh. L'égalité femmes-hommes, j'y suis venue pour plusieurs raisons, mais j'avais rencontré, lorsque j'étais directrice de l'ONACVG, la déléguée aux droits des femmes qui était en poste à ce moment-là. Et je me suis dit, oh là là, ce poste, j'ai envie de l'occuper et de remplir ses missions.
Ainsi, le travail que vous exerciez auparavant était-il en lien avec celui que vous exercez actuellement ?
Alors, la thématique était différente, notamment quand on parle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Mais il y avait malgré tout des similitudes sur le fait de porter une politique publique, d'être au service du public, de faire avancer les choses, d'être utile aussi, de pouvoir promouvoir la solidarité, la citoyenneté. Et puis, les dernières années où j'étais directrice de l'ONACVG, on accueillait les victimes d'attentats.
D'accord.
Et il y a eu aussi également l'accueil de militaires blessés, notamment en état de stress post-traumatique. Et c'est posé la question du parcours de ces militaires ou du parcours de ces victimes d'attentats. Et cette notion de parcours, de trouver les bons interlocuteurs, de mailler le territoire, etc., sont des choses du coup que j'ai pu appréhender. Et donc, j'ai pu les réinvestir finalement dans le poste que j'occupe aujourd'hui, avec cette thématique égalité femmes-hommes qui me tenait à cœur depuis un moment. Même si les deux thématiques ou les deux professions peuvent être éloignées, finalement, moi, j'y ai trouvé un pont assez naturel.
Étant lycéenne et future étudiante, je sais que malheureusement, je devrais me battre toujours plus qu'un homme, même si nous possédons des compétences ainsi que des expériences similaires. De plus, je serai, comme toutes les autres étudiantes, plus exposée aux difficultés. C'est pour cela que j'aimerais savoir si vous avez déjà subi des inégalités, de l'ordre du sexisme par exemple, durant vos études ou votre carrière.
Alors moi, en bonne fille, j'ai fait des études de lettres, sciences humaines, donc j'étais dans une filière réputée dite féminine, donc là-dessus, le sexisme n'a pas été présent. J'ai pu faire des études supérieures sans me poser de questions, donc là-dessus, je n'ai pas eu à subir telle ou telle pression. Sur les métiers que j'ai exercés ensuite, non plus. Par contre, c'est vrai qu'en étant directrice de l'Office national des anciens combattants, des manifestations de sexisme, j'en ai connu, entendu. Pendant mes études, non. Sincèrement, je n'ai pas eu à subir ça et je n'ai pas eu à sentir que je devais me battre plus qu'un homme. Pas à ce moment-là, en tout cas.
Tant mieux, parce que ça doit être très, très décourageant.
Oui, mais je n'étais pas dans une filière scientifique, oui. Je n'étais pas dans une école d'ingénieurs, je n'étais pas dans une école d'ingénieurs automobiles, par exemple.
Vous étiez dans un cadre...
J'étais dans un cadre féminin.
Mmh. D'accord. Lorsque vous étiez étudiante, saviez-vous déjà que vous vouliez vous battre pour les droits des femmes ainsi que l'égalité femmes-hommes, ou cette idée est-elle venue par la suite ?
Elle est venue au cours de mes études. Lorsque j'étais en maîtrise d'histoire, j'avais un complément à faire au-delà de mon mémoire et j'avais choisi le sujet de l'histoire des femmes au 19e siècle. Mmh. Alors, le choix n'était pas tout à fait anodin non plus, mais vraiment au cours de ces recherches et de ces lectures, j'ai vraiment pris conscience que c'était un sujet que je voulais travailler. Et lors de mes vies antérieures, j'avais déjà postulé sur un poste d'égalité femmes-hommes qui D'accord. dépendait d'une collectivité. Donc, ce n'est pas un hasard dans mon parcours professionnel.
Ensuite, pensez-vous que votre position en tant que femme a changé par rapport à votre profession ? Et si oui, de quelle manière a-t-elle évolué selon vous ?
Elle a évolué au fur et à mesure de mes lectures, de ma compréhension de ce qu'est l'égalité femmes-hommes. Parce que finalement, on en a une vision... Quand on ne la travaille pas, on en a une image. Mmh. Et quand on travaille plus spécifiquement le sujet en lisant beaucoup et en échangeant, forcément, certaines choses évoluent, notamment en matière d'éducation des enfants. Voilà, j'ai une fille et un garçon. Ça m'a fait réfléchir sur est-ce qu'il y a des différences, en fait, en matière d'éducation. Après, il y a forcément des choses qui évoluent dans la manière d'appréhender les choses, la découverte de la notion de charge mentale aussi.
Mmh.
Oui, au quotidien, du coup, il y a des choses qu'on essaie de déployer pour lutter contre les stéréotypes ou pour parvenir à l'équilibre.
D'accord. Désormais, nous savons donc que votre vie professionnelle est dédiée à la lutte pour les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes. Seulement, vous battez-vous pour ces idées également dans votre vie privée, et si oui, de quelle manière ?
Alors, si votre question est de savoir si j'ai un engagement associatif, bénévole, etc., à ce jour, non.
D'accord.
Par contre, parler d'égalité femmes-hommes à chaque fois qu'il m'est possible de le faire, oui, bien sûr.
D'accord. J'imagine que vous possédez une certaine image de la société de par votre expérience. J'aimerais donc savoir si vous avez remarqué une évolution en ce qui concerne la place des femmes dans la société depuis le début de votre carrière.
Alors, c'est vrai que je suis en poste en tant que déléguée aux droits des femmes et à l'égalité depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc, l'évolution de la société sur ce domaine-là, voilà, j'ai un recul de 3 ans aujourd'hui. Ce que je constate, c'est qu'il y a déjà eu des évolutions en 3 ans, notamment sur la libération de la parole et sur l'appréhension du phénomène des violences conjugales notamment, et que c'est devenu un problème de société beaucoup plus fortement qu'il n'y a 3 ans. Mmh. Et passé par là, MeToo, Balance ton porc, etc. Et je trouve que dans le traitement médiatique et dans la compréhension du phénomène et l'appréhension de ce phénomène par les gens que je peux côtoyer autour de moi a changé. Enfin, j'ai l'impression qu'une lumière a été faite. Après, je ne vis pas au pays des bisounours, il y a encore plein de choses à faire.
Oui, bien sûr.
Mais je trouve qu'on arrive à un phénomène de société compris dans... mieux compris et mieux appréhendé.
D'accord. Merci pour ces premières réponses, Madame Dehaye. La première partie de notre interview s'achève ici. Nous allons donc effectuer une petite pause musicale. Voici No Excuses de la chanteuse Meghan Trainor.
Open up your
Bienvenue de nouveau sur BAC FM 106.1. Après une première partie où nous avons abordé votre vie professionnelle, Madame Dehaye, nous allons désormais parler de votre vie sous un aspect plus personnel. De ce fait, pourriez-vous nous dire si vous avez déjà subi des inégalités dans votre vie de tous les jours, ou tout du moins un membre de votre famille ou de vos amis ?
Alors, à titre personnel, je vous répondrai non, ou alors il faut que je repasse au crible toute ma vie. J'ai pas ce sentiment-là. Je me suis jamais interdit ce que je voulais faire. Je suis toujours allée au bout et en tout cas dans mon entourage familial ou mon entourage, on m'a jamais découragée en me disant t'es une femme, tu n'y arriveras pas, etc. Mmh. Donc je peux pas dire que j'ai subi ça. J'ai eu la chance de pouvoir toujours faire ce que je voulais, aussi grâce à l'éducation reçue. Mais voilà, là-dessus, j'ai pas à m'en plaindre. Par contre, j'ai oublié la fin de votre question. Pardonnez-moi.
Est-ce que un membre de votre famille ou de vos amis a subi des inégalités ?
Oui, bien sûr. C'est malheureusement répandu. Aujourd'hui, on vit dans l'illusion de l'égalité, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont avancé, notamment dans le cadre législatif. Mm-hmm. Mais au quotidien, il y a tellement de choses à faire encore.
Oui, bien sûr. Qui plus est, avec l'augmentation des violences sexuelles et verbales envers les femmes dans les espaces publics, avez-vous déjà été personnellement témoin de violences dans la rue ? Si oui, de quelle manière avez-vous réagi ? Et sinon, comment pensez-vous que vous réagiriez ?
Alors, j'ai été moi-même victime d'insultes dans la rue. Mmh. Après, ça reste très, très compliqué. Et ce qui est en jeu aussi, c'est le sentiment d'insécurité qui peut déjà être présent avant même des faits qui existent, des situations de violence. C'est très difficile de vous répondre hors sol, en fait. Après, il y a soit le réflexe d'appeler les forces de l'ordre, soit le réflexe d'aller vouloir s'en mêler.
Oui.
C'est très difficile. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de règle. On réagit en fonction de la situation. Mais je rappelle juste qu'en cas de situation d'urgence, il reste le 17. Mm-hmm. Le SMS au 114, maintenant, notamment pour les violences conjugales. Donc, je suis désolée, je reste très sur le prisme de mes missions. Mais c'est aussi ça qui me constitue aujourd'hui. Voilà, l'urgence reste le 17. Est-ce que je peux encourager aujourd'hui, si quelqu'un est témoin, c'est de pouvoir aussi se sentir libre d'appeler et de signaler. Mmh. Et je pense notamment, par exemple, au 3919, qui n'est pas un numéro d'urgence, mais qui est un numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences, mais également pour les témoins.
D'accord.
Et il ne faut pas s'interdire d'appeler ces professionnels formés à l'écoute.
Il ne faut pas hésiter.
Je pense notamment aussi au 119, le numéro de l'enfance en danger. Voilà, si on se pose des questions, au-delà même d'une situation violente, d'agression, etc., mais si on constate des faits ou des choses qui nous interpellent, il ne faut pas s'interdire d'appeler pour avoir des conseils. Même parfois, on se dit, mais je vais trahir la confiance de quelqu'un qui m'a confié un secret, etc. On peut soi-même recueillir des conseils et ensuite pouvoir les transmettre sans donner l'identité de la personne concernée, mais au moins se dire qu'on a une étape et on peut lui fournir des conseils et une orientation en lui disant d'appeler elle-même, peut-être. Mais en tout cas, voilà, une première étape qui peut être importante.
Oui, il n'y a aucun enjeu. On peut tout à fait
appeler. Oui, en toute confidentialité, en tout anonymat, on peut aller se faire décrypter une situation qui, voilà, sur laquelle on a un sentiment particulier et voilà, être écouté et ensuite conseillé.
D'accord. À l'heure actuelle, la lutte pour les droits des femmes ainsi que l'égalité femmes-hommes tend énormément à être assimilée au féminisme. Alors, vous considérez-vous comme étant féministe ou encore antisexiste et pourquoi ?
Alors, si défendre l'égalité femmes-hommes, c'est être féministe, je le suis. Par contre, je ne suis pas militante. En plus, sur le mot féminisme, il y a une connotation péjorative très très forte.
Bien sûr.
Je ne suis pas militante, je ne suis pas voilà, je suis fonctionnaire d'État. Ma mission, c'est de défendre une politique publique et la soutenir. Ce n'est pas présenter des idées personnelles. Donc, je suis féministe parce que je revendique l'égalité. Mmh. Mais dans la tête d'un grand nombre de personnes, le féminisme a un côté péjoratif où ce sont des femmes, les fémènes seins nus qui vont revendiquer ou les chiennes de garde. Sur les fémènes, dans les locaux ici, face à une étudiante qui m'avait dit « mais je comprends pas pourquoi c'est fémène, je suis pas d'accord », je lui avais dit « qu'est-ce qui pose question ? C'est un mouvement politique, alors voilà, heureusement qu'en démocratie, on peut exercer ses opinions et les défendre. Qu'est-ce qui interroge sur les fémènes ? C'est le fait qu'elles soient seins nus ? Et encore une fois, c'est l'exposition du corps féminin qui pose problème. Donc voilà, le mouvement fémène est intéressant à décortiquer. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mon idée n'est pas de convaincre ou de les défendre à titre personnel. Mais en tout cas, s'interroger sur savoir qu'est-ce qui dérange dans ce mouvement et pourquoi elles le font.
Donc, selon vous, quelle serait votre définition du féminisme ?
Bah, le féminisme, je vais prendre la définition que je m'applique, c'est-à-dire revendiquer l'égalité entre les hommes et les femmes, mais tout en portant cette politique publique qui permet les avancées au sein de la société.
D'accord. En lien avec ma question précédente, possédez-vous une référence féministe ?
Il y en a plusieurs. J'ai été frappée en lisant Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, de la modernité. Vu la date de l'écriture, de la modernité, de la profondeur de ses réflexions. Forcément frappée par Gisèle Halimi.
Oui.
Après, j'ai pas de référence particulière de grande figure, hormis quand même Simone Veil.
Oui, bien sûr.
Forcément, alors c'est enfoncer une porte ouverte, mais de par mes précédentes fonctions et par celles que j'occupe aujourd'hui, pour moi, elle reste un tel exemple d'engagement, de construction intellectuelle, de portée politique. Oui, je pense que Simone Veil reste
un monument.
Un monument, voilà.
Considérez-vous que l'existence du masculinisme est légitime alors que le féminisme prend de plus en plus d'ampleur de nos jours ?
Comme je vous le disais en préambule de cette interview, je ne suis pas très à l'aise avec ce mot de masculinisme et l'opposition avec le féminisme. On parle de plus en plus de l'égalité femmes-hommes et des mouvements féministes, donc c'est intéressant. Après, je ne pourrais pas vous répondre plus avant, sauf si vous me donnez l'occasion de revenir. On en rediscutera à ce moment-là quand j'aurai pu travailler
bien
les
évidemment.
Définitions du masculinisme. Mais par contre, ce que je peux constater, c'est l'interrogation autour du rôle de l'homme aujourd'hui. Comme elle se pose sur le qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui, qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui. Et donc forcément, ces questions-là, elles sont prégnantes.
D'accord. Voici une question sans doute un peu plus légère, mais tout aussi intéressante selon moi. Comment imagineriez-vous une société parfaitement égalitaire ?
Alors forcément où l'égalité femmes-hommes est atteinte, mais c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie. Je citerai quelques chiffres en exemple qui situent aujourd'hui où sont les inégalités. Par exemple, aujourd'hui, les femmes touchent 653 euros de moins par mois de retraite. Elles assurent 14 heures de tâches domestiques supplémentaires par semaine. Un tiers des femmes voient leur carrière impactée par l'arrivée d'un enfant. Les femmes se concentrent sur un nombre assez réduit de métiers. 24% d'écart de salaire tous métiers confondus entre hommes et femmes. Et puis, 93 000 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol en une année en France.
C'est affolant.
En 2019, une femme est morte tous les deux jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, sachant que les violences faites aux femmes demeurent la plus grande inégalité existante entre les hommes et les femmes. Donc ce serait un pays et une société où ces chiffres-là n'auraient plus lieu, finalement.
D'accord, je vois. Par quels moyens pourrions-nous y arriver, selon vous ?
C'est multifactoriel. Il y a une évolution des mentalités sur lesquelles on doit travailler dès tout petit. Rôle des parents, rôle de l'école. Faire avancer les dispositifs. C'est vraiment multifactoriel, mais en fait, permettre dès la petite enfance à ne plus poser les stéréotypes sur ce que doit être une fille, ce que doit être un garçon, ce que doit être une femme.
Par exemple.
Le rosé et le bleu, à la petite fille, les jouets d'imitation avec un bébé et
la cuisine
et le garçon, les légotroniques. Alors, c'est pas tant le jouet qui est en question, c'est ce qu'on en fait ensuite. On retrouve les garçons à 85% dans les écoles d'ingénieurs et les filles, de mémoire, c'est 75 ou 80% en école d'infirmière. Ça pose la question du choix.
Oui.
Quel choix puis-je faire et quel choix je m'autorise à faire. Voilà.
Mais on se rétrécit nous-mêmes, en fait, le champ de vision qu'on possède, alors que on pourrait être capable de faire beaucoup plus de
c'est
choses.
C'est ça. Il n'y a pas un cerveau masculin, un cerveau féminin. En fait, il y a le cerveau de chaque individu avec ses propres compétences et qualités. Et donc, voilà, qu'on puisse choisir sans subir le sexisme ou le rétrécissement des possibles.
Oui. Aussi, est-ce, selon vous, un avenir possible? Et si oui, semble-t-il proche ou lointain?
C'est un avenir possible, ça j'y crois, sinon je ne me lèverai pas le matin. Après, ça demande du travail, ça je vais être honnête, il y a à travailler sur tous les domaines de la vie, il y a à travailler sur cette évolution des mentalités qui est trop lente, sans doute. Après, au regard de l'histoire, voilà, il y a eu telles avancées aussi au 20e et 21e siècle, donc il faut aussi poser les choses en perspective. C'est pas du court terme, malheureusement. Mais c'est possible.
Avec énormément de travail.
Avec du travail, avec de la conviction, et puis avec le fait que toutes les femmes et tous les hommes ensemble travaillent à cette égalité femmes-hommes. En fait, c'est main dans la main que la société avancera.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses, Madame De Haye, et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. C'était Julie Blé sur la radio BAC FM 106.1. Bonne journée à tous.